En tout cas, nous sommes le 4 janvier, effectivement, 2026. Et voici 2025 qui est déjà derrière nous. Une année fut passée. Et une autre est déjà là. Et je ne sais pas pour vous, mais à chaque année, à cette période de l'année, il y a une phrase qui me revient souvent, comme une chanson qui me revient continuellement. Tous mes meilleurs vœux 2026. Tous mes meilleurs vœux. C'est une phrase qu'on n'entend que dans cette période de l'année, qu'à cette période de l'année. Cette phrase que nous prononçons si souvent, en regardant plus près les choses, n'est pas simplement qu'une formule de politesse en réalité. En se penchant plus près, elle prend racine dans les profondeurs du cœur humain. Dans les profondeurs des cœurs humains. Pourquoi ? Quelle que soit la culture, nous le voyons bien, la célébration de Noël n'est pas seulement une fête lambda, mais un rituel universel de réflexion, d'espérance et de renouveau, ce que nous pouvons observer dans toutes les cultures. Le Nouvel An représente alors un nouveau départ pour nous, le changement d'une année symbolique, un renouvellement. On renferme une ancienne page, on ouvre une nouvelle page. Nous espérons tous que cette nouvelle année sera meilleure que celle qui a précédé et aussi meilleure pour celles et ceux que nous aimons. Alors cela montre le désir, un désir inné de renouveau et de progression dans le cœur de l'homme. Le cœur humain aspire naturellement au bonheur et veut le communiquer et veut le partager. Quand nous formulons des vœux, nous exprimons ce que nous désirons, nous exprimons ce que nous ressentons, pour nous-mêmes d'abord, mais aussi pour les autres. Dans la santé, dans la réussite, la sécurité. Alors cela relève notre soif du bonheur. L'homme a soif de bonheur. Et notre capacité à vouloir le bien pour autrui, longue vie et prospérité. Les vœux, ici quand nous disons tous mes meilleurs vœux, les vœux, ici reflètent aussi notre lucidité face à la vie. Un vœu, c'est un souhait. Oui, c'est un souhait, nous le savons. Mais est-ce qu'elle est garantie ? Est-ce qu'elle est garantie ? Malgré nos meilleures volontés, nous ne contrôlons finalement rien. La vie est fragile et demain est incertain. Alors derrière nos vœux se cache une conscience, une forme de conscience profonde d'une réalité, de notre condition humaine. Une recherche, consciente ou non, de quelque chose de plus grand de nous-mêmes. Une espérance, quand nous prononçons cette phrase. Souhaiter nos meilleurs vœux est donc une forme d'expression en réalité qui est spirituelle. Pourquoi je dis cela ? Un appel à une bénédiction. C'est un appel à une bénédiction, à une forme de grâce, à une protection face aux épreuves de la vie. Chose que nous ne pouvons pas nous donner mutuellement. Il y a un désir de transcendance à travers cette formule. Une recherche, une forme de sécurité durable. Aujourd'hui, le monde nous dit que la richesse est la clé du succès. Mais est-ce vraiment, vraiment suffisant ? Est-ce vraiment correct de dire cela ? Connaissez-vous cet homme ? Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, est l'un des hommes les plus riches et influents de notre époque. Il a conquis le marché, le commerce terrestre et a accumulé une fortune colossale. Pourtant, au sommet de sa réussite, il n'a pas arrêté sa quête de soif. Il a regardé au ciel. Et là, regardez ce qu'il a fait. Il a investi sa fortune dans Blue Origin pour s'attaquer maintenant à l'espace. Voyez, toujours plus haut. Et qu'est-ce que cela nous révèle ? le succès terrestre, si grand soit-il que nous pouvons avoir, ne peut pas combler l'appétit intérieur de l'homme. L'homme, même au plus haut des sommets, est toujours dans une forme de quête. Que ce soit Bezos, le voisin d'à côté, nos amis ou nous-mêmes, notre plus grande aspiration est de trouver un sens durable à notre agitation ici-bas, dans nos peines et dans nos joies. Nous essayons de retenir ce qui nous échappe, de refaire ce qui s'est défait, de recommencer ce qui s'est achevé. Nous cherchons désespérément un profit à nos efforts, à nos gains. C'est l'essence même du cœur de l'homme, toujours en quête de sens. L'enquête que nous allons mener aujourd'hui nous mène vers un homme, le seul qui a mené cette quête jusqu'au bout, le quête de sens, le quête du sommet. Et il en tire une conclusion qui ouvre ce livre de l'Ecclésiaste par un verdict sans appel des plus amers. Et c'est notre passage de ce matin. Lisons ensemble. Je vais le lire sur ma tablette. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, à Jérusalem. Comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste. Comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre arrive, et la terre est toujours là. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après l'endroit d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le sud, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, mais la mer n'est pas remplie. Et ils continuent d'aller vers leur destination. Tout est en mouvement, plus qu'on ne peut le dire. L'œil ne sera jamais rassasié de voir et l'oreille ne sera jamais remplie au point de ne plus pouvoir écouter. Ce qui a existé, c'est ce qui existera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit à propos de quelque chose, « Regarde ceci, c'est nouveau !» En réalité, cela existait déjà dans les siècles précédents. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera par la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Fin de la lecture de la parole de Dieu. Alors, que savons-nous de l'auteur de l'Ecclésiaste? Le terme « ecclésiaste » ici est la traduction grecque du mot hébreu, « kohelet ». Il ne s'agit pas d'un nom propre ici, mais d'un titre qui désigne celui qui parle devant l'assemblée, le maître de la sagesse, l'enseignant et le prédicateur. L'auteur ne se présente donc pas comme un simple citoyen, mais comme une autorité reconnue en matière de sagesse et d'enseignement. L'auteur ne donne pas explicitement son nom. Cependant, il décrit clairement son identité à travers plusieurs autodescriptions que nous pouvons observer dans le livre de l'Ecclésiaste. Les indices internes du texte, à partir des déclarations de l'auteur, la traduction juive aussi et chrétienne a identifié Salomon comme l'auteur de l'Ecclésiaste. Voici les versets qui appuient cette vérité. Fils de David, roi à Jérusalem. J'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai grandi et accru en sagesse plus que tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de connaissance. L'Ecclésiaste n'est pas seulement été un sage, mais aussi un enseignant, il le dit plus loin. Il a enseigné la connaissance au peuple, il a examiné, recherché et mis en ordre un grand nombre de proverbes. Cette description correspond parfaitement au portrait biblique de Salomon. Oui, le texte ancien juif de la Mishnah et la Talmud a identifié le coquelet à Salomon. Et on reconnaît que le livre de l'Ecclésiaste est un livre saint. Alors, ici, Salomon se présente comme l'investigateur ultime de notre enquête. Il a reçu une intelligence, une sagesse qu'aucun homme sur terre n'a pu égaler. Le pouvoir et la richesse ne lui a jamais manqué à Salomon. Sa domination, son charisme et son avoir l'ont conduit à expérimenter tout ce qu'il se fait sous le soleil. C'est le fruit, ici, de la plus grande enquête jamais menée sur le sens de la vie. C'est l'idée centrale de notre message ce matin. Toute quête de sens limité au cycle terrestre est vaine. Cependant, l'Ecclésiaste n'a pas pour but de nous effrayer ou de nous conduire au vide et au désespoir, non. Ici, il nous livre, au contraire, une enquête intemporelle sur le sens de la vie, le questionnement du sens de la vie, afin de nous mener à réfléchir et à poser le bon constat aujourd'hui. Et cela nous conduit à notre premier point, le constat de la vie. Dès le premier verset, l'Ecclésiaste pose un verdict sans détour. Comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste, comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. Généralement, dans une enquête, on commence par formuler des hypothèses, trouver des preuves, avant d'en arriver à une conclusion, bien sûr. Mais ici, l'Ecclésiaste prend tout le monde à contre-pied. Il pose le cadre d'emblée par cette vérité, par ce verdict. Ici, l'expression répétée « comble de l'inconsistance » deux fois ici ne signifie pas simplement « juste un peu ». Il signifie « c'est le maximum là ».« Comble de l'inconsistance », c'est le maximum. Le maximum, nous touchons le fond du sujet. Le mot hébreu, Ebel, traduit par inconsistance ou vanité, selon les traductions, possède un sens littéral et plusieurs sens figurés. Je vais vous expliquer. Littéralement, elle signifie une forme de buée. C'est de la vapeur, souffle l'inconsistance, la vanité. Au sens figuré, ces images, cette image, évoque la fragilité, la non-consistance, le passage, ce qui est éphémère. Quand l'Ecclésiaste dit que tout n'est que fumée, il ne parle pas en théorie ici. Ce n'est pas une théorie. Il décrit la réalité de son enquête encore. Ce qu'il voit, ce qu'il a vécu, ce qu'il a observé. Il montre comment la vanité de ce monde traverse toute l'histoire de l'existence humaine, parce que l'homme est réellement fragile et sa vie l'est tout autant. À partir de ce constat que nous posons de l'Ecclésiaste, alors on peut dégager 5 aspects qui montrent à quel point l'homme est fragile. 5 aspects. Premièrement, on a la mort. Premier aspect, la mort nous met tous d'accord. L'issue de toute la vie, c'est la mort. Elle nous rappelle que le sage, comme l'insensé, le riche comme le pauvre, passeront tous par ce chemin qui est la mort. Il y a aussi l'injustice. Il arrive que de bonnes choses peuvent arriver aussi aux méchants, et pas qu'aux bonnes personnes, qu'aux personnes justes. Nous avons au troisième point aussi l'incertitude. L'homme est incapable de contrôler ce qui arrivera par la suite. Il ne peut pas prévoir, mais l'avenir lui échappe. Quatrième point aussi, l'énigme de la vie. Il y a beaucoup d'événements dans la vie qui demeurent incompréhensibles. Les grandes questions du pourquoi restent souvent sans réponse. Je me souviens, quand j'étais adolescent, j'ai été renversé 2 fois en vélo. 2 accidents très graves. Et j'ai perdu conscience à chaque fois. Et je me rappelle, dans cette inconscience, c'était tout noir. Il n'y avait rien. J'étais comme si endormi. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, eh ben, c'est là que mes yeux se sont ouverts et j'ai vu la lumière et j'étais dans le lit d'hôpital. Et les médecins étaient en train de m'analyser. Il s'est passé un temps fou, en fait, comme si c'était une seconde, quoi. J'ai entendu tic, boum, la voiture qui m'a tapé. Puis après, tac, j'ouvre les yeux, je suis à l'hôpital. C'est incroyable la vitesse de ce qui s'est passé, c'est comme une fraction de seconde. Et parfois, je me suis toujours posé cette question, toujours posé cette question. Je me suis dit, pourquoi la vie m'a retenu? Pourquoi la vie m'a retenu deux fois? Parce que quand j'ai vécu les souffrances qui m'attendaient, les souffrances passées que j'ai endurées, je me suis dit, pourquoi la vie tu m'as retenu? J'aurais pu très bien éviter ces souffrances. Mais non. Je ne les ai pas évitées. Et ça, c'est des grandes questions qu'on se peut se poser dans nos vies. Et je pense que vous aussi, vous en avez des grandes questions, des questions qui n'ont pas eu de réponse. Nous avons cinquièmement le péché. Qu'il s'agisse du péché des autres ou du nôtre même, il rend souvent la vie douloureuse, compliquée et parfois même brisée. Ici-bas, rien n'échappe à la réalité, à cette réalité de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste applique ce diagnostic sans exception et tout ce qu'il voit et tout ce qu'il vit, dans tout ce que l'homme entreprend, il se heurte à une réalité qui est désagréable et incontournable. Il y a la confusion, la frustration de l'homme, la déception, la douleur, l'instabilité, l'imprévisibilité, la fragilité, l'injustice de la condition humaine. Une réalité à laquelle nul ne peut échapper à tout âge. Face à ce constat qui est très amer, c'est un constat qui est très amer, l'Ecclésiaste va maintenant nous présenter les preuves de son enquête. Il commence par observer ce qui rythme l'existence humaine. C'est notre deuxième point. Quel avantage l'homme retire-t-il de toutes les peines qu'il se donne sous le soleil? Comme diraient aussi les jeunes aujourd'hui, c'est ici la question qui tue. C'est ici la question qui tue. En posant cette question, l'Ecclésiaste pointe du doigt ce qui cloche dans son enquête de sens là. Il se pose lui-même la question qui lui trouble. Et c'est aussi une question qui devrait aussi troubler l'humanité. Ici, le mot avantage peut être aussi compris comme quel profit, quel gain durable, qu'est-ce qui reste après et qu'est-ce qu'on emporte avec nous? Nous n'avons pas besoin d'être docteur pour comprendre. Oui, pour affirmer, pour comprendre qu'un jour l'homme naît. L'homme vit et l'homme va s'agiter. Il travaille, puis il se fatigue. Puis un jour, il meurt. Peu importe son statut, riche ou pauvre, sage ou insensé, tous connaissent la même fin. Alors, si l'Ecclésiaste s'interroge sur l'avantage que l'homme tire de sa peine sous le soleil, c'est parce qu'il a remarqué à quel point l'être humain se donne du mal et dépense beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie dans sa vie ici-bas. C'est ce qu'il observe. Alors, cela révèle une réalité profonde. Tout être humain est en quête de sens. Chacun cherche une raison face à sa propre existence, que ce soit dans l'accomplissement personnel, les plaisirs de la vie, la carrière professionnelle et les réussites. Et pourtant, malgré tous ces efforts, elles n'apportent pas toujours le sens durable espéré. L'Ecclésiaste ne fait donc pas de la philosophie abstraite. Il décrit la réalité brutale de la condition humaine exactement comme Dieu l'avait annoncé dans la Genèse 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Et c'est bien dans ce sens-là que l'Ecclésiaste veut répondre à la question de qu'il a posée tout à l'heure. À quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Alors, il répond par la suite du verset. Une génération s'en va, une autre arrive, et la terre est toujours là. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après l'endroit d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le sud, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, mais la mer n'est pas remplie, et ils continuent d'aller vers leur destination. Dans ce verset, l'Ecclésiaste nous montre une forme de mouvement circulaire, une spirale qui tourne, qui tourne, qui tourne, sans jamais s'arrêter, mais qui revient toujours au même point. Cette description circulaire nous rappelle que la vie humaine sous le soleil, expression qui désigne la vie ici-bas, est réellement éphémère, est réellement éphémère. Nous sommes tous des maillons d'une longue chaîne que personne ne peut arrêter. Chaque individu naît à son époque, avec son histoire, ses combats, ses peines et ses joies, puis s'en va en emportant avec lui son propre récit. Les générations se succèdent et finissent par oublier celles qui ont précédé. Pendant ce temps, la terre, elle, continue à tourner, comme si de rien n'était. La vie décrite par l'Ecclésiaste est comme le soleil, le vent et les fleuves qui se jettent à la mer. Tout est en mouvement, mais rien ne change vraiment. Tout suit les mêmes trajectoires, tout revient au même point. Une spirale sans fin. Finalement, une question demeure essentielle. La destinée humaine peut-elle vraiment satisfaire tous nos désirs et justifier tous nos efforts? L'Ecclésiaste dresse un constat douloureux de la condition humaine. Pour répondre à cette question précisément, il va démontrer que ni les plaisirs, ni les richesses, ni le travail acharné, ni même la sagesse ou la vertu, aussi grande qu'elle soit, ne suffisent pas à garantir le bonheur durable. Sa réflexion peut se résumer ainsi. Plus l'homme possède, plus il désire, plus il connaît, plus il mesure ce qui lui échappe. Plus il avance plus loin, son cœur reste insatisfait. Si l'Ecclésiaste parle avec une telle assurance, ce n'est pas par amertume qu'il le dit, mais par une grande sagesse. Il a longuement observé et exploré toutes les facettes de la vie, de la condition humaine, pour en saisir un sens. Et il n'y a trouvé que, écoutez-moi bien, il n'y a trouvé que de l'insatisfaction. Et c'est précisément cette analyse lucide qui nous mène à notre troisième point, l'insatisfaction de la vie. Tout est en mouvement, plus qu'on ne peut le dire. L'œil ne sera jamais rassasié de voir, et l'oreille ne sera jamais remplie au point de ne plus pouvoir écouter. L'Ecclésiaste approfondit encore son constat. Le mouvement circulaire, insensé de la nature, incessant de la nature, que nous avons vu tout à l'heure, se reflète désormais maintenant dans l'agitation du cœur de l'homme, dans notre être intérieur. C'est ce qu'on pourrait appeler le paradoxe de la satiété. Rien ne suffit jamais à combler le cœur humain. Comme si nous étions un puits sans fond. Un puits sans fond. On pourrait penser qu'après avoir vu les plus belles vues du monde, toutes les destinations que nous pouvons accomplir ici-bas, on pourrait dire « Oh, ça y est, c'est assez ». Mais non, le désir se renouvelle sans cesse. Il en va de même pour l'oreille. Toujours plus d'informations, plus de musique, de nouveautés, plus de paroles, mais jamais réellement de repos durable. Savez-vous quel est le plus grand danger d'un puits ? Savez-vous quel est le plus grand danger d'un puits ? Ben, je vais vous expliquer. Ce n'est pas tant ce qu'on va jeter dans le puits. Ce n'est pas ça. C'est la profondeur de son puits, de ce puits. La profondeur de ce puits. De la même manière, le plus grand danger du cœur humain, si on devait faire la comparaison, ce n'est pas ce qu'il désire, mais l'absence de fond à son désir. L'absence de fond à son désir. L'absence de fond dans ce puits. L'objet à peine acquis, le plaisir s'évapore et le vide réapparaît. L'Ecclésiaste avait compris, hein, bien avant toute la psychologie moderne d'aujourd'hui, l'illusion qui nous habite. Si j'avais cette chose, je serais heureux. Je serais heureux, très heureux. Mais une fois la chose obtenue, oh, c'est normal, hein. Je vais passer à quelque chose de mieux, peut-être. Je cherche la suivante, la prochaine qui est à côté. Alors, l'insatisfaction n'est pas due à ce qui nous manque, mais à notre incapacité à dire « c'est assez ». Nous sommes probablement persuadés que si nous trouvons quelque chose d'inédit, une expérience incroyable que très peu n'ont vécu, ou trouver une invention révolutionnaire, un plaisir qui est très original, alors enfin, notre insatisfaction sera étanchée. C'est ici que l'Ecclésiaste porte le coup de grâce à notre illusion. C'est ici. Oui. Ce qui a existé, c'est ce qui existera. Et je vais lire, là, je vois mal sur l'écran. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit à propos de quelque chose, regarde ceci, c'est nouveau. En réalité, cela existait déjà dans les siècles précédents. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera par la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Ah là, l'Ecclésiaste nous mène là, il nous guide là, il nous place là, devant le piège de l'insatisfaction. Chercher à combler une soif infinie dans un monde qui se répète, c'est comme un naufragé qui tente d'étancher sa soif en buvant de l'eau salée. Oui, comment ? Essayer de combler une soif infinie dans un monde qui se répète. L'eau est bien là devant nos yeux. Elle semble être la solution pour nous. Mais plus on en boit, plus cela brûle notre gorge et plus cela nous rend soif et aggrave notre situation. De la même manière, les plaisirs, le soulagement, les plaisirs sont un soulagement d'un moment. Les réussites encouragent brièvement. La nouveauté excite l'instant. Mais très vite, très vite, très vite, la soif revient. Plus fort encore, plus fort avant. La course après la satisfaction est une course perdue d'avance. Parce que ce monde n'a jamais été conçu pour étancher une soif infinie. Pourquoi je dis cela ? Parce que les formes peuvent changer. Les formes peuvent changer. Mais le fond ne change pas. C'est-à-dire que le cœur de l'homme ne change pas. Je vais vous donner quelques exemples. Nous voyons dans le temps antique de l'Égypte des grandes pyramides. Eh bien, les grandes pyramides, je les ai comparées aux réseaux sociaux. Pourquoi ? Aujourd'hui, certaines personnes cherchent le nombre de likes et de vues pour exister, pour se sentir exister aux yeux des autres. Le désir d'être vu et de laisser une trace n'est pas nouveau, comme ces pyramides. À l'époque de Pharaon, on bâtissait des pyramides, on érigeait des statues pour les mêmes motivations et les mêmes raisons. Combattre l'oubli et montrer son importance. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont remplacé probablement la pierre. Mais la motivation reste, elle, identique. Dans les divertissements, par exemple, le streaming. Nous pensons que notre accès illimité aux séries et aux films est une nouveauté. C'est faux. Le concept de l'aréna, pain et jeu, panem et cire sans cesse, dans la Rome antique, comparable à probablement l'Accor Arena, autrefois appelé Paris-Bercy, servait exactement pour le même but, occuper l'esprit des masses, offrir une invasion, canaliser nos émotions. L'arène, aujourd'hui, a été remplacée, probablement par un écran. Mais la fonction psychologique et sociale est exactement aussi la même. Et dans les finances, alors, les crises et les comportements économiques. On parle souvent des nouvelles crises financières à cause des marchés financiers et des crypto-monnaies. Mais les mêmes mécanismes existaient déjà dans l'Antique. La spéculation, la peur de perdre, cette avidité. Certes, la technologie au jeu a beaucoup évolué et cela va beaucoup plus vite. Mais le cœur humain n'a pas changé. Parlons de la mode. Chaque année, on nous annonce une nouvelle tendance. Ça, c'est nouveau. Et pourtant, le style revient sans cesse. La mode d'hier réapparaît aujourd'hui sous une autre forme. L'homme cherche toujours, au fond, à se distinguer et à appartenir à un groupe. Ça, c'est le fond. C'est comme je dirais, c'est le paradoxe de la mode. Je veux être original, oui, mais comme tout le monde. Alors, cet exemple montre que si, même si la technique progresse, l'évolution progresse, tout va plus vite, tout va plus haut, la nature humaine ne change pas. Nos peurs, nos désirs, nos besoins, c'est statique, ça ne bouge pas. C'est pour cela que l'Ecclésiaste affirme qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est comme dire, voici, on va changer le décor de l'EIG. Mais la pièce, elle, est toujours la même. C'est comme ça. L'homme dépense beaucoup d'énergie. Colossal à changer les facettes de sa vie. En espérant quoi ? En espérant qu'un nouveau décor lui apportera la paix. Faux. Il croit qu'en modifiant la forme, le fond changera. Pourtant, comme le dit l'Ecclésiaste, on ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera par la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. L'Ecclésiaste met le doigt dans l'illusion, et renforce sa conclusion sur l'enquête de sens. L'homme est bien déterminé à tout, peu importe combien il s'agite, combien il accumule des richesses, combien il cherche à se distinguer, mais tout finit par être oublié. Alors, on revient droit sur le verdict initial de l'Ecclésiaste. Toute agitation ici-bas n'est que fumée. Nous changeons le décor de la scène, mais nous jouons toujours la même pièce tragique, celle d'un être assoiffé et qui se désaltère. Il croit qu'en mangeant de la poussière, en buvant de la poussière, cela va le désaltéré. Voilà. Non. Comble de l'inconsistance ici. Comble de la vanité. Alors nous arrivons à notre conclusion. L'Ecclésiaste nous a conduit pas à pas au terme de son enquête de sens. Il nous oblige à regarder la réalité en face. Sous le soleil, tout se répète. Sous le soleil, rien ne rassasie durablement. Sous le soleil, tout finit par s'user et par être oublié. Ce sentiment de vanité, d'insatisfaction, de fatigue intérieure n'est donc pas une illusion, ni un simple mal-être des temps modernes. L'apôtre Paul, figurez-vous, l'apôtre Paul confirme clairement cette position. Il dit dans Romains chapitre 8, versets 20 à 21, écoutez bien, « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Paul reprend exactement le constat de l'Ecclésiaste. La vanité est réelle, elle touche toutes les générations, toute la création même, on pourrait dire. Elle n'est pas un accident, mais une réelle condition. Mais là où l'Ecclésiaste, ici à notre chapitre 1, va s'arrêter, sur la question de l'espoir, Paul va ouvrir la réponse, va ouvrir la porte à la réponse. La création est soumise à la vanité, oui, c'est ce qu'il dit. Mais il y a une issue, il y a une promesse de libération, de restauration et de gloire. Et cette espérance trouve un sens non pas dans une idée, dans un effort humain, mais dans une personne. Jésus-Christ, qui lui déclare, il le dit bien dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus ne propose pas de rajouter quelque chose en plus dans ton puits sans fond. Il ne vient pas pour remplir le décor, mais il vient pour transformer le fond de ton puits. Il se présente lui-même comme la réponse à toute l'enquête de sens. Alors, la question n'est plus à savoir ce que vous pouvez encore changer, ajouter ou réussir pour espérer être satisfait ici-bas. La question est plutôt... Où allez-vous placer votre espérance? Sous le soleil? Où allez-vous lever les yeux au-dessus du soleil?